Jean-Pierre Vernant, vous le voyez là. Donc je vais vous parler de lui. Bah, tout bêtement, je vais vous parler de sa vie, je vais vous parler de son œuvre. Mais aussi, je vais vous parler dans un troisième temps de l'homme que c'était. Alors sa vie, son milieu familial, il vient de Provins. Vous savez, c'est une ville au nord de Paris, à la limite de l'Abri et puis de la Picardie. Son père, Jean Vernant, est un prof de philo qui a abandonné la carrière d'enseignant pour devenir journaliste, pour reprendre en réalité le travail de son propre père, Adolphe Vernant, qui était le fondateur d'un journal local républicain, Le Briard. Et donc Jean Vernant, le père de Jean-Pierre, a dirigé ce journal. On est dans un milieu intellectuel, vous voyez, un milieu intellectuel provincial, qu'un milieu déjà ancré à gauche, mais aussi patriotique. Son père avait été réformé pour raisons militaires, mais quand éclate la guerre, il s'engage comme volontaire. Et d'ailleurs, il est tué à la Somme en 1915, ce qui fait que Vernant, qui est né en janvier 14, ne l'a pas connu, enfin, en tout cas, n'en a pas de souvenir. Et comme sa mère meurt quand il a 8 ans, eh bien, c'est un orphelin qui est élevé avec ses cousins et son grand frère Jacques, qui a 2 ans de plus que lui. Et ça, c'est très important dans la vie de Vernant, parce que ça a déterminé un rapport particulier aux autres qui est fondé sur la fraternité. Vernant dit dans un de ses entretiens: « Mon enfance a été placée sous le signe des frères et des cousins, de ce groupe dans lequel j'étais le plus jeune, mais où nous mettions tout en commun sur un plan d'égalité. Plus tard, au lycée, j'ai vécu de la même façon mon expérience scolaire à travers des cercles de copains qui s'élargissaient. » Alors ce lycée, c'est à Paris, donc lycée Carnot, donc dans le 17e. Puis ensuite, il part à Louis-le-Grand pour son hypocagne, tout en étant en même temps étudiant en philo à la Sorbonne, ce qui n'est pas très difficile quand on est au lycée Louis-le-Grand, puisqu'il y a juste une rue entre la Sorbonne et le lycée. C'est la même rue. À traverser de trottoir, en quelque sorte. Et ses études le conduisent jusqu'à l'agrégation de philo, qu'il obtient en 1937, major de sa promotion, donc premier à l'agrég de philo en 1937, comme son frère, 2 ans plus tôt, en 1935, avait été également cacique de l'agrégation de philo, ce qui est un cas unique dans les annales du concours. Et puis donc, il est jeune agrégé, il a 23 ans, et c'est le moment de faire son service militaire. Ce service militaire, il choisit de le faire comme sergent-chef dans les chasseurs alpins. Vernant, alors on ne voit pas sur la photo que j'ai montrée avant, hein, vous avez une photo d'un vieux monsieur, mais c'est une force de la nature, c'est un colosse, un type grand, massif, c'est un grand sportif qui aime la montagne, et donc il est content d'aller dans la Maurienne, là-haut, dans les chasseurs alpins. Puis dans la foulée, il fait les EOR, l'école des officiers de réserve. Donc il ne dépasse pas le niveau d'aspirant parce qu'il est recalé en quelque sorte à cette école avec dans son dossier motif « inapte au commandement », ce qui, on va le voir, est assez piquant. Puis quand il a fini, eh ben, c'est la guerre. C'est la guerre, il est appelé avec son unité à se rendre, il doit rejoindre son régiment qui se trouve à Soissons, à Laon, L'A-O-N. Il retrouve son frère, Jacques, ils veulent absolument aller à Soissons parce que tous les deux sont appelés là-bas, pas moyen, il n'y a aucun train qui va y aller, il y en a un qui doit partir, mais il n'y a plus de wagon, ils insistent, on finit par accrocher un wagon, ils sont les seuls dans le train, le cheminot n'a pas l'air de vouloir aller à Soissons, ils se disent... comprennent pas, il explique bien ça dans ses entretiens. Il n'avait aucune idée, il n'était pas du tout préparé psychologiquement, comme d'ailleurs aucun Français de l'époque, à cette extraordinaire défaite militaire, la plus importante défaite militaire de notre histoire, qu'est la défaite de juin 40. Et donc, le train, avec ses 2 passagers, arrive à Soissons, la gare est complètement déserte, personne, pas un cheminot, rien, et un téléphone qui sonne dans le bureau. Au bout d'un moment, son grand frère Jacques va décrocher et il entend l'état-major: « Est-ce que les Allemands sont déjà là ?» Alors là, ils comprennent qu'en fait, ça ne se passe pas comme c'était prévu. Et ils sont un peu surpris et puis ils marchent dans la ville et très vite, ils tombent sur l'exode, sur cette débâcle extraordinaire, ces gens qui fuient dans un désordre inouï. Eux aussi, ils suivent, ils se replient vers Laon comme tout le monde. Et dans ce désordre extraordinaire, il croise une colonne de chars avec un type, droit comme un i, qui, lui, est à contre-courant de tout le monde et part vers le front. Le colonel de Gaulle, qu'il voit donc pour la première fois, qui ne trouvera pas l'ennemi, puisque contrairement à ce qu'on pensait, l'ennemi ne descend pas en continuant vers Paris, mais remonte, comme vous savez, pour enfermer les troupes françaises et anglaises dans la poche de Dunkerque. Bref, son régiment est replié sur Narbonne. Son frère et lui se retrouvent donc à Narbonne, et là, ils sont démobilisés. Donc, fini la vie de soldat, de Truffion, et donc de combattant qui n'a pas vraiment combattu. Alors, qu'est-ce qu'il lui reste à faire ? Il lui reste à faire son métier de prof de philo, puisqu'il a passé la grecque. Et donc, il commence sa carrière d'enseignant. Donc, il est là à Narbonne, mais il lui faut un poste. Alors, il y a un épisode assez cocasse qu'il raconte dans ses entretiens. Donc ils apprennent que le gouvernement s'est replié à Vichy, donc ils finissent par envoyer un télégramme là-bas et ils demandent affectation pour Vernant. Et réponse qui arrive de Vichy: Vernant, agrégé de philo, affecté à Clermont-Ferrand. C'est bien beau, mais on est deux. Donc ils renvoient un télégramme à Vichy en disant: nous sommes deux Vernant agrégés de philo. Le ministère répond: Vernant, major à l'agrégation, affecté à Clermont-Ferrand. Ils répondent: sommes deux Vernant, major à l'agrégation. Il reçoit enfin un troisième télégramme: Vernant aîné, affecté à Clermont-Ferrand. Donc c'est Jacques qui s'y colle. Et Jean-Pierre, rien. Rien pour lui, pas de poste. Alors il ne sait pas quoi faire. Bon. Au bout d'un petit moment que son frère est à Clermont, il lui dit: écoute, toi qui es à Clermont, c'est pas loin, va à Vichy, va voir là-bas ce qui se passe. Son frère y va, à Vichy, dans les bureaux, il tombe sur quelqu'un qui l'avait eu comme étudiant. Qui dit: ah oui, le petit Vernant, là, très 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 bien, on va lui donner la canne de Toulouse. Et c'est comme ça qu'il commence sa carrière de professeur, ce qui n'arrive évidemment jamais, par un poste absolument inespéré pour un jeune enseignant, le poste de professeur dans la cagne du lycée de Toulouse, du lycée des garçons de Toulouse, qui ne s'appelle pas encore le lycée Pierre de Fermat, mais qui est un des grands lycées français de province. Pourquoi ? Parce que le titulaire de cette cagne, donc, qui est un philosophe important, Georges Canguilhem, un spécialiste, c'est un médecin au départ, mais c'est aussi un philosophe qui s'est fait philosophe des sciences, un épistémologue, vient juste demander un congé pour achever sa thèse, et de fait, quelques mois après, il est nommé professeur à l'université de Clermont-Ferrand, Georges Canguilhem. Et donc, on n'a plus personne à mettre devant les cagneux, donc c'est le jeune Vernant qui se retrouve dans ce poste, très désemparé, hein. Lui, ça fait depuis 37, ça fait 3 ans qu'il est en uniforme. Il est là, dans cette ville de Toulouse, où il débarque. Il n'a pas de livre, il n'a pas de cours, il n'a rien. Hein, et il faut qu'il aille faire cours, et cours en cagne. Donc, c'est assez rocambolesque comme début. Ce poste, il l'occupe pendant toute la guerre. À la Libération, l'inspecteur général de philo qui s'appelle Bridou dit: compte tenu de vos brillants états de service, je vous nomme à Paris. Et donc le voilà nommé à Paris dans un lycée parisien du 9e arrondissement, le lycée Rollin, qui vient tout juste d'être baptisé lycée Jacques de Cour, du nom d'un de ses professeurs d'allemand qui a été fusillé en 1942 au Mont Valérien pour fait de résistance. Et d'ailleurs, il a comme condisciple, comme collègue plus exactement, comme collègue à l'époque, le Lucie Aubrac, qui est professeur d'histoire. Donc, pendant 2 ans, il est prof de philo dans ce lycée parisien. Et puis, sa carrière prend un autre tour. Il devient un chercheur à temps plein. Il entre en 1948 au CNRS. Alors, le CNRS, c'est tout frais, hein, tout neuf, tout nouveau. Il a été créé en 1945. Enfin, le projet est un projet qui date du Front Populaire, mais dans les faits, c'est en 1945 que le CNRS est fondé. Et donc, il entre au CNRS pour faire sa thèse de philo sous la direction d'un psychologue qui s'appelle Ignace Peyerson, dont je vais reparler. Vous verrez le nom tout à l'heure. Et l'idée, c'était de faire une thèse sur la notion de travail chez Platon. En fait, cette thèse, elle n'a jamais vu le jour. L'essentiel de ce qu'il avait à dire là-dessus, il l'a dit dans des articles, dans des livres. Ensuite, en 58, il entre à la sixième section de l'école pratique des hautes études, donc la section des sciences sociales. Vous savez, c'est cette section qui, en 75, s'autonomise en école des hautes études en sciences sociales. C'est une sixième section qui a été créée après les autres. Elle a été créée en 45 par des chercheurs, principalement beaucoup d'anthropologues, de sociologues qui, pendant la guerre, s'étaient réfugiés aux États-Unis, qui reviennent en France. Bon. Donc, il devient directeur d'études donc, à la sixième section. Donc, cette section a été fondée, et elle est encore à l'époque dirigée par Lucien Febvre, le grand historien que vous connaissez, en dépit des réticences de l'autre dirigeant, qui est Fernand Braudel. Et puis, en 68, il passe de la sixième section à la cinquième section. C'est un choix intéressant, parce que la cinquième section, c'est la section des sciences religieuses. Et ça marque bien le moment où Vernon, de plus en plus, concentre son travail, son domaine de recherche, sur la religion grecque. Et puis enfin, en 75, il est élu professeur au Collège de France. Donc la chaire qui est créée pour lui s'appelle « Chaire des études comparées des religions antiques ». Alors c'est très important cette élection au Collège de France, non seulement évidemment parce que c'est une consécration au Collège de France, vous savez, c'est le Graal pour un universitaire, il n'y a rien au-dessus du Collège de France. Mais c'est pas tellement ça qui est important pour Fernand, c'est que ça lui donne accès à un autre public. Vous connaissez le principe de cette institution donc, qui remonte à François Ier, qui est que c'est une institution dans laquelle professent les plus grands savants dans leur domaine, mais devant un public qui ne passe aucun diplôme, dont on n'exige aucun diplôme, dans lequel il n'y a pas d'examen, et qui est un public extraordinairement varié. Il a là, évidemment, tous les chercheurs qui s'intéressent à ses travaux, c'est-à-dire son auditoire habituel de la cinquième section et de la sixième section qui l'a suivi. Mais il y a aussi, au Collège de France, c'est toujours comme ça, vous avez aussi les dames de bonne famille qui pensent que c'est bien de se cultiver, les pharmaciens et les ingénieurs à la retraite qui veulent accéder à autre chose dans la culture, et puis aussi ceux qui sont rentrés là parce qu'il y avait de la lumière et que c'est chauffé. Parce qu'au Collège de France, il y a aussi des clochards dans le public. Et donc, c'est complètement différent. Et probablement, ça a une influence sur l'évolution de l'écriture de Vernon. À partir de ce moment-là, à la fois parce qu'il a acquis une notoriété extraordinaire par ce poste, donc il n'a plus rien à prouver, et aussi parce qu'il a pris l'habitude de s'adresser à un public extrêmement varié, et bien, dans son écriture, c'est plus du tout pareil. Dans ses premiers livres, c'est rempli de notes, c'est très très savant, etc. Après, il est arrivé à un moment où bon, il n'a plus besoin de notes. Il peut dire les choses comme ça. Il peut les dire aussi peut-être de manière plus simple, plus accessible à beaucoup de monde. Alors parallèlement, il fonde en 1964 un centre de recherche qui s'appelle le Centre de recherche comparée sur les sociétés antiques, qui va prendre bientôt le nom de Centre Louis Gernet, dont il assure la direction jusqu'en 1985. Au sein de ce centre de recherche, où pendant plusieurs années il a été d'ailleurs le seul helléniste, il met en pratique une démarche comparatiste. Vous vous rappelez que sa chaire au Collège de France, elle s'appelle chaire des études comparées des religions antiques. Une démarche comparatiste qui va donc confronter les formes diverses que pouvait revêtir, dans différentes cultures de l'Antiquité, le religieux, le politique, la vie agricole, la guerre, le travail, l'économique. Et de cela naît toute une série d'ouvrages collectifs, très importante cette dimension collective, donc tous ne sont pas dirigés par Vernon. Donc le premier à apparaître, c'est Problèmes de la guerre en Grèce ancienne. Problèmes de la terre en Grèce ancienne, cette fois c'est dirigé par un célèbre historien anglais qui avait fait sa carrière aux États-Unis puis qui avait fui les États-Unis chassé par le maccartisme, qui s'appelle Moses Finlay. Puis Divination et rationalité, là c'est co-dirigé, hein, vous voyez, on a mis les noms quasiment de tous les gens qui parlent dedans sur la couverture. Et puis le volume dirigé par Vernon, Jacques Gernet, le fils de Louis Gernet, qui est un sinologue, Bottero, le spécialiste de l'extrême-orient antique, enfin de la Mésopotamie antique, Divination et rationalité. Le dernier, c'est « La mort, les morts dans les sociétés anciennes », qui, lui, est dirigé par Ghirardo Gnoli, un enseignant italien, en 1982. Ce centre de recherche, qui est devenu aujourd'hui l'UMR 8210, l'UMR Anima, qui est le centre auquel je suis rattaché, auquel sont rattachés aussi Jean-Christophe Couven et Nicolas Richer, qui vont venir vous parler dans le cours de ce semestre, a rassemblé un grand nombre d'antiquistes de très grand renom. Alors, je vous ai mis aussi une petite galerie de portraits qui commence déjà à être une galerie des ancêtres, un peu, puisque tous ces gens-là sont en retraite, pour ceux d'entre eux qui sont encore vivants. Mais ce sont vraiment les gens qui ont énormément compté dans la discipline. Alors, Pierre Vidal-Naquet, je ne peux pas vous en parler, parce que je ne peux pas en parler brièvement. Ses travaux, c'est tellement important que je peux rien vous dire. Bon, il est mort en 2008. Il était né en 29 ou en 30. Marcel de Tienne, lui, il a travaillé beaucoup sur la religion, sur les formes de pensée. Et il a travaillé étroitement au début avec Vernant, et d'ailleurs il a co-dirigé le centre Louis Gernet avec lui. Claude Mosset, c'est la doyenne, c'est la plus ancienne de tous ces gens-là. C'est une dame maintenant très très âgée, hein. Elle aura 94 ans le 24 décembre prochain, donc vous voyez. C'est une historienne que vous connaissez sans doute parce que elle a beaucoup, une grande part de son travail est passée dans les travaux universitaires. Elle est une spécialiste notamment de tout ce qui est politique, mais aussi des rapports sociaux. Nicole Leroux, trop tôt disparue, elle est morte en 1994, a été très importante. C'est une philosophe, elle, de formation, enfin philologue-philosophe, marquée aussi par la psychanalyse. Elle a beaucoup apporté, notamment pour la dimension histoire des femmes, puis histoire du genre. Stella Géorgoudi, dont je vous reparlerai dans un instant, a été directrice d'études à l'École des hautes études. École pratique de hautes études à la section des sciences religieuses. Elle a pris la succession de Vernant quand Vernant est devenu professeur au Collège de France. Elle a beaucoup travaillé sur les pratiques, notamment les pratiques sacrificielles. John Scheid, c'est un spécialiste de la religion romaine. François Alain Schnapp, c'est un archéologue, mais un archéologue qui a vraiment profondément modifié la manière de faire de l'archéologie. Qui a travaillé sur des tas de choses dans une perspective anthropologique, en particulier sur la chasse. François Hartog, vous le connaissez peut-être comme historiographe, comme épistémologue de l'histoire. François Lissara, un spécialiste des images, qui a complètement révolutionné la manière d'approcher les images de l'Antiquité. François Polignac, qui a dirigé, François de Polignac, qui a dirigé aussi le centre Louis Gernet, c'est un spécialiste du politique de la période archaïque. Et Pauline Schmitt-Pantel a été aussi une historienne de la religion. C'est avec Stella Géorgoudi que Jean-Pierre Vernant et Nicole Leroux ont fondé en 1986. Une revue, la revue Métis, qui est une revue plurilingue, une revue franco-hellénique. Elle a été éditée conjointement à Paris et à Athènes. C'est probablement une des rares revues qui ne soit pas de revue, des revues grecques, qui édite des textes en grec moderne. C'est-à-dire que les collègues hellénistes qui sont grecs peuvent écrire dans cette revue en grec moderne. Donc elle a un lectorat à la fois francophone, anglophone, évidemment germanophone, etc., mais aussi hellénophone. Donc une revue qui est une revue d'histoire et d'anthropologie, d'approche anthropologique de l'Antiquité. Dans le premier numéro de cette revue, voilà ce qu'écrivait Jean-Pierre Vernant à propos de Métis. S'il m'était donné de formuler un vœu sur le berceau de cette revue naissante, je ferais volontiers le suivant, qu'elle soit libre et ouverte, qu'en échappant au provincialisme des frontières nationales, à l'étroitesse des habitudes universitaires, elle ne se laisse pas enfermer dans l'horizon exigu des chapelles, des modes, des écoles. Donc voilà pour cette vie, pour cette carrière. Alors maintenant, quelques mots de son œuvre. Je vais, dans un premier temps, m'intéresser aux influences qui ont marqué Vernon. Et puis ensuite, je vais retenir quelques-unes des thématiques en essayant de vous montrer un petit peu ses apports. Alors pour les influences, j'en ai retenu trois. Meyerson, dont j'ai déjà parlé, Jernet et Lévi-Strauss. Jernet, dont j'ai déjà parlé aussi, et Lévi-Strauss. Alors Meyerson d'abord. Ignaz Meyerson était, donc 1888-1983, était un professeur de psychologie à l'école pratique des hautes études qui a été révoqué par Vichy parce qu'il était juif et qui s'est réfugié à Toulouse pendant l'occupation. Et c'est là que Vernon l'a mieux connu. Il l'avait un peu fréquenté avant comme élève, mais il était dans l'auditoire à l'école pratique. Là, il a vraiment noué des relations avec lui et des échanges intellectuels et est née une amitié intellectuelle très forte entre ces deux hommes pendant la guerre, à cette époque où ce grand savant donc animait à Toulouse un séminaire informel dans le cadre d'une société de psychologie comparative qu'il avait fondée et où venaient parler des gens à lui qu'il connaissait, alors des historiens comme Marc Bloch, des sociologues comme Marcel Mauss, mais fréquentait ce séminaire tout un public très varié, en particulier Mgr Saliège, l'évêque ou l'archevêque de Toulouse. Meyerson, c'est un juif polonais qui a été naturalisé français à 35 ans, dont la formation au départ est une formation de médecin. Mais il a aussi une licence en sciences et une licence en philosophie. Donc vous voyez, c'est un homme extrêmement, extrêmement complet. Et il est très important parce qu'il est le fondateur de ce qu'on appelle la psychologie historique et comparative. La méthode de Meyerson consiste à construire à partir des faits de civilisation, tels que peuvent les documenter les sciences humaines comme l'histoire, l'origine, la généalogie et l'évolution de ce que Meyerson appelle les fonctions psychologiques. Par exemple, la mémoire, c'est-à-dire les différents pôles de l'activité mentale, hein, donc la mémoire, la perception de soi, la perception des couleurs, toutes sortes de choses comme ça qui, dit-il, doivent être historisées en quelque sorte, hein, doivent être appréhendées dans leur évolution. Et donc, il cherche à montrer cette évolution, et donc il cherche à montrer en même temps leur contingence et qu'elles ne s'inscrivent pas dans une réalité naturelle, immuable, anthropologique. Et c'est sous la direction de Meyerson que Vernon s'inscrit en thèse, après la guerre, en 1948. Meyerson a une telle confiance dans ce jeune chercheur qu'il lui confie le secrétariat de rédaction d'un journal important, enfin d'un périodique important qui s'appelle le Journal de psychologie normale et pathologique. C'est en gros l'une des deux principales revues de psycho qui paraissent en France à cette époque-là. Donc ça a orienté les travaux de Vernon sur des catégories mentales telles que la mémoire, l'espace, le temps, comment fonctionne la mémoire, comment fonctionne l'espace, le temps chez les Grecs. Et c'est Vernon aussi qui présente Vernon. C'est Meyerson aussi, pardon, qui présente Vernon à son collègue et ami Louis Jernet, seconde influence. Louis Jernet, donc, qui a donné son nom au centre de recherche qu'a fondé en 1964 Jean-Pierre Vernon. Alors, même génération que Meyerson, 1882-1962, mais un profil très différent. Là, on a affaire à un helléniste à la fois très solide comme helléniste, c'est-à-dire un vrai philologue, un vrai spécialiste des textes, et un très grand spécialiste des textes, l'éditeur par exemple de Lysias dans la collection Budet. Il avait fait sa thèse sur, ça s'appelait « Recherche sur le développement de la pensée juridique et morale en Grèce ». Mais en même temps, un helléniste tout à fait atypique dans son époque, parce que c'est aussi un sociologue. C'est probablement ce qui a valu à Jernet d'avoir comme poste la chaire d'histoire grecque de la faculté d'Alger, ce qui était une manière de le reléguer en quelque sorte. Donc également un sociologue, la preuve en est qu'il est le directeur de l'année sociologique, vous savez, la célèbre revue fondée par Émile Durkheim et que Jernet a dirigé de 1948 à 1961. Et on peut dire que Jernet est le premier à avoir mis en œuvre une approche anthropologique de la Grèce ancienne. Une approche anthropologique de la Grèce ancienne, Vernant a bien reconnu la dette intellectuelle qu'il avait vis-à-vis de Gernet. Je le cite, « Certainement, je n'aurais jamais fait ce que j'ai fait s'il n'y avait pas eu Gernet. C'est lui qui m'a fait comprendre, qui a complètement élargi mon horizon, qui m'a montré la nécessité à la fois d'un savoir précis et en même temps de ne jamais s'en contenter de ce savoir philologique textuel, de poser des questions au texte, de mettre en rapport la tragédie avec le droit, avec la vie politique, avec la religion, de voir que les choses sont à la fois tout à fait distinctes, que si on est dans le monde de la tragédie, c'est un monde qui doit être pensé pour lui-même, que le monde religieux est aussi un monde à part, et que, en même temps, entre la vie politique, la pensée politique, les institutions politiques, le développement du droit, et puis l'apparition d'un certain nombre d'attitudes philosophiques ou de catégories mentales nouvelles, ou de façon nouvelle d'écrire, par exemple en prose au lieu d'écrire sous forme poétique, il y a des liens qui sont assez étroits. Et c'est Gernet qui m'a fait faire ça, dit Vernant. Et la troisième influence, c'est Lévi-Strauss, donc vous savez, le célèbre anthropologue français, donc le fondateur de l'école d'anthropologie sociale française, l'école qu'on appelle structurale, qui a travaillé lui-même beaucoup dans le domaine de la parenté et dans le domaine des mythes. L'ouvrage le plus important de Lévi-Strauss, c'est probablement un ouvrage théorique qui s'appelle « Les structures élémentaires de la parenté » qui date de 1949, qui est vraiment un tournant dans l'histoire de l'anthropologie. Mais c'est davantage peut-être l'approche des mythes qui a été marquante pour Vernant. Et Lévi-Strauss avait une très grande considération pour Vernant, et c'est d'ailleurs lui qui a fait entrer Vernant au Collège de France, où lui-même naturellement occupait la chaire d'anthropologie sociale. Quand Vernant est mort, à l'hommage qui a été rendu à la BN, Lévi-Strauss, lui, était toujours vivant. Alors, il n'est pas venu parce que c'était un monsieur qui avait déjà 100 ans, mais on l'a filmé dans son bureau au Collège de France, et il a parlé de Vernant, et à un moment, il dit « C'est l'homme le plus intelligent que j'ai jamais vu. » Ce qui, venant de Lévi-Strauss, quand même un peu saisissant. Alors, ces trois influences, naturellement, il les a assumées, il les a aussi dépassées. Vernant, c'est pas Meyerson plus Gernet plus Lévi-Strauss. Mais il y a un peu de chacun des trois. J'ai retenu deux thèmes. Un thème, celui de la pensée grecque, et un second, celui de la religion et des mythes. Alors, la pensée grecque, je vous ai mis ici quelques-uns des livres importants. Les origines de la pensée grecque, 1962, c'est le premier ouvrage, montre comment en Ionie, au 7e, 6e siècle, est apparue la pensée occidentale rationnelle, comment en quelque sorte le logos s'est dégagé du mythos, et comment cette révolution intellectuelle a partie liée avec le développement de la forme politique citée, avec le développement de la cité. Et donc ça, c'est très important dans la démarche de Vernant, de confronter ainsi le mental, l'intellectuel, avec le social. Mythe et pensée chez les Grecs, je vous fais passer. Étude de psychologie historique, donc une manière de rendre hommage à Meyerson. 1965, alors en réalité c'est un recueil dans lequel il y a des articles qui ont paru déjà avant, et puis donc des choses nouvelles, dans lequel il étudie par exemple les relations entre la géométrie et la politique, dans lequel il étudie les aspects psychologiques du travail dans la Grèce ancienne. Il réfléchit sur la pensée technique, sur la catégorie psychologique du double, etc. Vous pouvez regarder la table des matières, c'est très, très, très varié. Le livre qu'il a coécrit avec Marcel de Tienne, « Les ruses de l'intelligence, la métisse des Grecs » en 1974, porte sur une notion centrale et très complexe, puisque ce mot « métisse », c'est à la fois un nom commun, et donc vous voyez que c'est aussi le nom qui a été choisi comme éponyme de la revue fondée par Vernant, un nom commun qui signifie intelligence, mais une forme particulière d'intelligence, un tour particulier d'intelligence, l'intelligence rusée, l'intelligence astucieuse, celle des stratagèmes, une intelligence qui, d'ailleurs, peut comporter aussi de la dissimulation, une intelligence retorse qui peut aller jusqu'au mensonge. On peut dire que le héros humain, par excellence, qui incarne cette forme d'intelligence, c'est Ulysse. Et d'ailleurs, chez Homère, Ulysse, il est souvent appelé Ulysse polymétis, Ulysse qui a beaucoup de métis, c'est-à-dire Ulysse qui a beaucoup de ruses. Dans les traductions un peu anciennes, littéraires de l'Iliade et l'Odyssée, on traduit par Ulysse aux mille tours. C'est celui qui a plus d'un tour dans son sac. Et c'est donc le débrouillard, le malin, celui des feintes, si vous voulez, des pièges, celui qui sait se tirer d'affaire. Alors, bon, c'est parfois un peu limite son comportement, hein. C'est pas toujours très, très loyal. Pourtant, c'est un héros qui, somme toute, est connoté positivement. Mais Métis, c'est aussi un nom propre. C'est le nom d'une déesse très particulière, qui a à voir en particulier avec Zeus et avec sa fille Athéna, et qui est en quelque sorte l'incarnation de cette forme d'intelligence. Et le livre de De Tienne et de Vernon est une sorte d'enquête qui se déplace continuellement d'un secteur à l'autre de la pensée, qui aborde la vie sociale des Grecs, qui prend les choses au niveau, par exemple, des techniques comme celle de la pêche, donc avec l'utilisation du filet, des pièges, les pièges qu'on tresse, qu'on tend, mais aussi de la charpenterie, comment on ajuste différents morceaux de bois pour fabriquer, par exemple, Ulysse fabrique le fameux cheval de Troie, mais pour fabriquer aussi bien les pièces qui constituent l'arrière du laboureur. Mais en même temps, ça s'intéresse à d'autres domaines, comme la rhétorique, avec les sophistes, ou bien la politique, avec des personnages pleins de métis, des personnages historiques, comme Thémistocle. Thémistocle, qui est présenté dans nos sources comme un homme à métis, un homme rusé, qui s'intéresse aussi au monde animal, avec deux animaux qui sont des animaux chargés de métis, le renard, c'est l'animal filou, l'animal malin, mais aussi le poulpe. Le poulpe, c'est l'animal qui a une souplesse incroyable, qui peut prendre toutes les formes, qui peut se modeler sur toutes les situations, prendre la couleur du rocher, se confondre avec le sable, et sécréter cette encre dans laquelle il se dissimule, il crée l'obscurité, et à partir de laquelle il peut ensuite soit échapper à ses prédateurs, soit surgir à l'improviste pour s'emparer de ce qu'il convoite. Ce qui est intéressant, c'est de montrer que tout cela, c'est lié. On est dans des domaines très différents, et en réalité, il y a quelque chose qui est commun à tout ça, et ce quelque chose, c'est cette catégorie mentale de la métisse. On pourrait ranger aussi, dans toute cette réflexion sur la pensée grecque, sur l'étude des catégories mentales, une série importante d'études de Vernon sur la mort. Je fais passer plusieurs des ouvrages sur la mort. En particulier, il a réfléchi sur ce qu'on appelle la belle mort, enfin sur ce qu'il appelle la belle mort, c'est-à-dire sur une manière qui est connotée positivement de mourir, qui est le fait de mourir pour la cité, de mourir pour le groupe. L'autre thème que j'ai retenu, c'est celui de la religion et des mythes, qui là aussi a donné lieu à toute une série d'ouvrages, donc Mythes et tragédies en Grèce ancienne, donc coécrit avec son ami Pierre Vidal-Naquet en 72, Mythes et société en 74, Mythes et tragédie 2 en 86, voilà, Mythes et religion en Grèce ancienne, et je vais prendre quelques exemples, quatre exemples, pour vous montrer comment Vernon travaille sur les mythes. Premier exemple, un article qui s'appelle « Le mythe hésiodique des races, essai d'analyse structurale » qui est paru dans la revue d'histoire des religions en 1960, puis ensuite qui a été repris dans « Mythes et pensées ». Eh bien, l'originalité de l'analyse structurale consiste à poser qu'un mythe ne constitue pas seulement une succession d'épisodes et que derrière la trame narrative du récit, on peut retrouver un système de corrélation, d'opposition, qu'en général on peut résumer dans un tableau, qui peut être étagé sur plusieurs plans. Et par l'analyse du mythe des races chez Hésiode, Vernant montre que des textes tels que ceux d'Hésiode, qui sont des textes archi-connus, classiques, étudiés depuis des générations et des générations par les philologues, qui donc sont lestés de toute une strate d'interprétations érudites, peuvent acquérir une cohérence nouvelle à la lumière de méthodes issues de l'anthropologie structurale, et que la pensée mythique apparaît essentiellement comme une pensée classificatoire, comme l'avait observé Lévi-Strauss à partir de l'analyse des mythes amérindiens. Deuxième exemple, Hestia et Hermès sur l'expression religieuse de l'espace et du mouvement chez les Grecs, un article qui significativement est paru d'abord dans la revue L'Homme, c'est-à-dire la revue du laboratoire d'anthropologie sociale fondée par Claude Lévi-Strauss en 1963. Cet article, donc ensuite ça a été repris dans Mythes et Pensées. Cet article se donne pour objectif de penser deux figures religieuses, celle de la déesse Hestia et du dieu Hermès, mais de les penser ensemble. C'est ça qui est important, de les penser ensemble et en même temps de penser ensemble, ce faisant, ce qui relève du religieux, mais aussi du social, du politique. Alors la déesse Hestia, c'est la déesse tutélaire du foyer, aussi bien le foyer de la maison, donc dans chaque maison il y a un feu où on cuit les aliments. Et ce feu, il est habité par une déesse, Hestia, que le foyer de la cité. Il y a aussi dans chaque cité un foyer qui brûle, c'est l'Hestia civique. Et donc, cette divinité, Hestia, elle est étudiée dans ses relations avec Hermès, qui lui, pour sa part, est la divinité qui est associée au mouvement, à l'échange, à la communication. C'est le dieu des passages, par exemple du passage de la vie à la mort, mais aussi des échanges. C'est le dieu qui protège les marchands. C'est le dieu des voleurs aussi, ceux qui font passer vos biens de votre poche à la leur. C'est le dieu des frontières, et donc des carrefours. Et donc c'est une divinité de la communication. Et ce que propose Vernant, c'est une nouvelle approche du panthéon grec, une approche structurale dans laquelle les divinités se définissent les unes par rapport aux autres. Ce qui est intéressant, ce n'est pas Hestia pour elle-même, ni Hermès pour lui-même, mais les relations, les oppositions, la complémentarité entre ces deux divinités. À Hestia, écrit Vernant, le dedans, le clos, le fixe, le repli du groupe humain sur lui-même. À Hermès, le dehors, l'ouverture, la mobilité, le contact avec l'autre que soi. Le groupe humain auquel fait allusion ici Vernant, c'est l'oïkos, c'est-à-dire l'unité familiale restreinte, la maisonnée, si vous voulez, dont le foyer, l'Hestia, est le centre religieux. Et l'opposition complémentaire d'Hestia et d'Hermès se retrouve dans l'organisation familiale en révélant de multiples tensions entre des principes contraires, entre inflexion patrilinéaire, la transmission de cet oïkos de père en fils, mais en même temps, circulation de certains biens par les femmes, par le biais de la dot, et reconnaissance de relations par les femmes. Opposition entre la famille dans sa dimension diachronique, l'inscription dans une généalogie, qui est la fixité, et en même temps, la famille dans sa dimension synchronique à un moment donné, c'est-à-dire un groupe qui pratique l'échange, et en particulier l'échange matrimonial avec les autres groupes pour nouer des alliances. C'est donc aussi l'opposition entre l'autarcie, le renfermement de l'oïkos du groupe sur lui-même, et l'échange entre l'endogamie et l'exogamie. Donc il y a beaucoup de choses qui sont en relation là-dedans. Le mythe d'Oedipe. Les articles de Vernant sur Oedipe ont été rassemblés dans un petit ouvrage. Oedipe sans complexe est l'article de base, l'article de référence paru dans Raison présente en 1967, dans lequel Vernant se livre à une critique de l'interprétation freudienne du mythe d'Oedipe, du mythe d'Oedipe tel qu'il est formalisé dans l'Oedipe roi de Sophocle. Donc vous savez, la fameuse théorie du complexe. Et en réalité, la critique de Vernant repose sur un argument assez simple. D'après lui, en interprétant l'œuvre du dramaturge athénien indépendamment de son contexte socioculturel, Freud s'est condamné à projeter sur cette histoire qui est vieille de 25 siècles et qui en fait a toutes sortes de variantes qui mériteraient d'être prises en compte autant que la pièce de Sophocle, qui n'en est qu'un des récits possibles, s'est condamné donc à une lecture qui est une lecture étrangère qui projette des préoccupations de la Vienne bourgeoise du XXe siècle. Vernant replace l'étude de ce mythe dans le contexte de la société qu'il a produit et il met en évidence qu'une de ses significations, c'est la mise en concurrence de deux origines possibles des hommes. Est-ce que les hommes naissent par reproduction ou est-ce que les hommes naissent, comme beaucoup de mythes grecs le racontent, du sol, c'est ce qu'on appelle des mythes d'autochtonie. Et ce sont ces deux origines possibles qui se retrouvent dans le mythe et dans toute une série d'oppositions complémentaires qui constituent en fait les deux solutions possibles d'un même problème, celui de l'origine. Est-ce qu'on est d'un seul ou bien est-ce que l'on est de deux ? Le mythe devient ainsi un instrument logique qui permet de médiatiser les contradictions, de les rendre plus acceptables. Et le thème de général de ce mythe, pour Vernon, c'est la difficulté de penser à la fois de façon concomitante l'autochtonie et les rapports de parenté de systèmes de représentation concurrents. Dernier exemple, à partir du mythe de Prométhée, le mythe qui justifie le rite du sacrifice alimentaire, le sacrifice de Tusia. Donc il y a un article très célèbre qui est paru donc, dans les entretiens de la Fondation Arte, mais déjà un livre qui a été coécrit avec Marcel de Tienne, La cuisine du sacrifice en pays grec, en 79, pas 72, hein, je crois que c'est 79 plutôt. Vernon, ce livre, donc avec d'Étienne pour ce qui est du livre La cuisine du sacrifice, à l'analyse des procédures sacrificielles, et ça lui permet de montrer les rapports d'homologie qui unissent une série d'oppositions destinées à distinguer l'homme des bêtes. De même que consommer la viande cuite et rituellement sacrifiée, c'est s'opposer aux bêtes sauvages qui, elles, mangent cru et en même temps s'entre-dévorent. De même, les céréales cultivées s'opposent, pour les Grecs, dit-il, aux plantes sauvages comme le cuit au cru. Il reprend là des grandes catégories mises en place par Lévi-Strauss. Cette opposition, elle fonctionne donc entre homme et bête, mais elle fonctionne aussi entre homme et Dieu. Au contraire des mortels, les immortels ne mangent ni pain, ni vin, et dans le sacrifice qu'ils partagent avec les hommes, ce qu'ils consomment, eux, ce sont les os brûlés. Les os, c'est la partie inaltérable de l'animal. Alors que donc ces os, ils les consomment par la fumée qui monte jusqu'à eux, la fumée qui est immatérielle. Ils mangent de l'inaltérable consommé de façon immatérielle. Alors que les hommes, eux, mangent la chair. La chair, c'est la partie périssable de l'animal. C'est ce qui est la partie, en quelque sorte, putrescible. Donc, d'un côté, des os brûlés, de l'autre, de la chair cuite. Et ce qui est en question, en dernière analyse, c'est le statut qui définit la condition humaine. Les dieux ignorent la faim, la fatigue, la mort, parce qu'ils se nourrissent de la fumée des sacrifices, du parfum, de l'ambroisie, parce qu'ils se nourrissent de choses immatérielles. Les hommes, eux, doivent cultiver, doivent travailler pour se nourrir, ils doivent engendrer pour se perpétuer, parce que mortels, et parce que se nourrissant de chair périssable. Révélateur du statut des hommes dans leur rapport avec les dieux, le sacrifice consacre la frontière entre le monde humain et divin par l'impossibilité qu'il souligne d'une commensalité authentique entre homme et dieu. Et donc, de ce point de vue, le sacrifice institue aussi une hiérarchie dans le monde. Non seulement il met en valeur la supériorité des dieux, puissance immortelle et l'infériorité des hommes, mais en outre, au sein des hommes, il crée aussi des hiérarchies, car ce sont eux, ce sont ceux d'entre eux qui ont touché les victimes au plus près, qui ont participé à la partie la plus sacrée du rituel, par exemple le chef de famille, si le cadre du sacrifice est familial, ou de manière générale les hommes libres, les citoyens, éventuellement les magistrats, et non pas les femmes, les esclaves, les étrangers. Ce sont ceux-là qui accèdent le plus au divin par la médiation sacrificielle. Donc ce rituel sacrificiel, il est révélateur des hiérarchies religieuses, sociales, politiques. D'article en article, d'un ouvrage à l'autre, Vernon renouvelle, voire révolutionne complètement l'approche de la Grèce ancienne en privilégiant une démarche pluridisciplinaire, en faisant appel non seulement à la philosophie, mais aussi à l'anthropologie sociale, à la psychologie historique, à l'histoire et à l'iconographie, car il travaillait aussi beaucoup sur les images, en particulier vers la fin de sa vie, avec Françoise Fontizy Ducoux, qui était son adjointe au Collège de France. Il s'intéresse donc à de grandes catégories, il s'intéresse à l'homme. Il y a un beau livre sous sa direction qui s'appelle « L'homme grec ». J'ai essayé de vous rendre compte un peu rapidement comme ça de ce travail, de cette œuvre. Je n'ai tiré que quelques fils de tout son travail, qui est d'une richesse absolument considérable. Mais il faut absolument aussi parler de l'homme. Et cet homme, c'est d'abord un homme d'engagement. Vernon, c'est fondamentalement un militant. Être bâti intérieurement en militant, c'est penser et agir d'instinct avec les autres, par et pour les autres, en compagnie, toujours. C'est aussi vivre son présent si dur, si décevant soit-il, en projet d'avenir. Cet engagement, il est présent dès sa jeunesse, dans les années 30, où Vernant est un militant antifasciste. On a vu que la famille de Vernant était de tradition républicaine. Ce journal, Le Briard, c'était un journal anticlérical, Dreyfusard. Dans le quartier latin où Vernant fait ses études, au milieu des années 30, les étudiants proches des ligues, en particulier les Clamelots du Roi de l'Action française, perturbent les cours des enseignants qu'ils trouvent trop à gauche, tiennent la rue, où ils défilent au cri de « mort aux Juifs » ou « à bas la République », s'affrontent violemment avec les étudiants de gauche. Et parmi ces étudiants de gauche, il y a le jeune Vernant, les jeunes Vernant, alors membre de l'Union fédérale des étudiants, une organisation proche du PCF. Ça, c'est le Vernant des années 30. Mais on n'a rien dit de Vernant si on n'a pas dit que Vernant, c'est aussi Thierry, alias Tixier, alias Lacôme, alias Jougla, alias Colonel Berthier, l'un des plus grands héros de la Résistance. Dès juillet 1940, à Toulouse, les frères Vernant, absolument indignés et scandalisés par la mise en place du régime de Vichy et la liquidation de la République, commencent par acheter du matériel d'imprimerie, une petite machine qui permet d'imprimer, et d'imprimer notamment des autocollants. Et ils impriment dans la journée, tous les quatre, les deux frères Vernant et leurs deux femmes. Et puis la nuit, les deux frères vont coller ces autocollants avec des slogans, vous voyez, qui sont des slogans très politiques. « Si la France est par terre, c'est la faute à Hitler. Son drapeau dans l'Ossal, c'est la faute à Laval. » Évidemment, rien à voir avec le discours, ambiant le discours officiel, où la France est vaincue à cause du Front populaire. Le mot d'ordre de la Nouvelle Internationale fasciste traite de tous les pays, unissez-vous. Donc des slogans très politiques et aussi des slogans qui témoignent d'une grande clairvoyance dans l'analyse de la situation, puisqu'ils affichent aussi, et ils le font immédiatement après Marcel Kébir, ce qui quand même témoigne d'un culot assez incroyable, « Vive l'Angleterre pour que vive la France ». Vernant a expliqué que ce choix avait été immédiat, évident. Un choix, dit-il, qui ressemble un peu à celui d'Achille. Il est jeune, il sait qu'il va mourir, mais il y va. En novembre 1941, Vernant entre dans le réseau de résistance Libération Sud, qui a été fondé par Emmanuel Dastier de la Vigerie. Comme souvent dans ces histoires, c'est une affaire de concours de circonstances. Son frère, donc, est à Clermont. À Clermont, son frère a retrouvé un collègue philosophe, Georges Canguilhem, dont j'ai parlé, qui, lui, est à l'université de Clermont. Canguilhem est entré déjà dans ce réseau. Et par Canguilhem, Jacques Vernant est présenté au grand résistant Jean Cavaillès, qui est d'abord un très très grand philosophe. Jean Cavaillès donne une valise à Jacques Vernant. Il lui dit « Voilà, tu vas aller à Lyon, à une certaine adresse, à un certain étage, à une certaine porte. Tu frapperas, tu diras un certain mot de passe et tu remettras cette valise. » D'accord, dit Jacques Vernant, il y va. Il y va. Et puis quand on ouvre la porte, il ne dit pas de mot de passe, parce que de l'autre côté de la porte, c'est une copine qui ouvre. Lucie Aubrac, avec qui ils ont fait leur étude, ils tombent dans les bras l'un de l'autre. Et très vite, Lucie demande « Et ton frère, où il est ?» Il est à Toulouse. Et c'est ainsi que peu de temps après, Vernant voit débarquer Lucie et Raymond Aubrac, qui sont des cadres importants du réseau Libération Sud. Donc Vernant entre dans ce réseau et assez vite, il est amené à exercer des responsabilités importantes. En novembre 1942, il est le chef départemental pour donc son département, la Haute-Garonne, de l'armée secrète. L'armée secrète, c'est le bras armé des Murs, mouvement uni de la résistance, qui fédère les trois principaux réseaux de la zone sud, c'est-à-dire Libération Sud, qui est le réseau de Vernant, mais aussi Combat, le réseau fondé par Henri Freinet, et Franc-Tireur, celui fondé par Jean-Pierre Lévy. Et Vernant, donc, dans le cadre de cette responsabilité départementale, organise les transports d'armes, transporte lui-même le premier stock de 5 tonnes d'armes et de matériel qui est destiné à l'armée secrète. Il instruit les jeunes recrues dans le maniement des armes, dans l'emploi des explosifs. Il met à profit ce qu'il a appris quand il faisait les EOR. Il commande plusieurs groupes qui opèrent des destructions diverses, qui attaquent des dépôts d'essence, des trains de munitions, qui font sauter des voies, qui exécutent des agents de la Gestapo et de la milice. qui opère aussi la destruction des fiches de recensement pour le STO. Le jour du débarquement en Normandie, Vernant prend le maquis et organise la liaison radio avec tous les maquis du Sud. Serge Ravanel, le chef de la résistance de la région Sud-Ouest, en fait son adjoint et le charge de mettre au point le plan d'insurrection pour libérer Toulouse, dont Vernant fait très vite passer la gendarmerie tout entière dans le camp de la résistance. C'est ainsi que le 19 août 1944, Vernant libère Toulouse, les armes à la main, à la tête de ses hommes. Dans les jours qui suivent, sur ordre de Ravanel, il termine de nettoyer la région. Il envoie des renforts dans l'Ariège. Il lance une colonne à la poursuite des Allemands vers Carcassonne, Narbonne et Béziers. Après l'accident dont est victime Ravanel à la fin septembre, Vernant est nommé chef régional des FFI. Par décret du 18 janvier 1946, le général de Gaulle le fait compagnon de la Libération. À ma connaissance, c'est le seul communiste, avec Roll Tanguy, à avoir été fait compagnon de la Libération, le seul des 1038. Donc, dans un décret qui est le même décret qui nomme compagnon de la Libération Roll Tanguy et Serge Ravanel. Cet engagement de militant communiste, mais un militant communiste tout à fait particulier. On a parlé de son engagement dans la jeunesse quand il était étudiant. Il a été repéré. S'il a échoué aux EOR, c'est qu'il y avait une fiche à l'armée sur lui, et non pas parce qu'il était inapte au commandement. Mais très vite, c'est un communiste critique. En particulier, en 1940, il est absolument révulsé par le pacte germano-soviétique. Mais après-guerre, il revient vers le parti, il est toujours militant. On le trouve éditorialiste à Action. Action, c'est un journal d'anciens résistants proches du Parti communiste, comme Maurice Kiégel-Valrimont ou Jeanne Modigliani, la fille du peintre, qui avait fait partie, donc l'un comme l'autre, du même réseau que Vernant. Mais c'est un militant critique, un militant marginal, qui bientôt publie, dès 1956, des journaux dissidents, comme L'Étincelle ou Voix Nouvelle, et dont la direction du parti se méfie, au point bientôt d'appeler tous ces gens-là les termites, ceux qui sapent silencieusement le parti. Dans les années 1970, il s'engage en faveur des dissidents soviétiques. Il fait partie du comité Kouznetsov, qui lutte pour la libération des dissidents Fiodorov et Mourgenko. On peut ajouter à cet engagement le militant anticolonialiste. Vernant est l'un des 121 signataires du manifeste des 121, comme on l'appelle, c'est-à-dire de la déclaration sur le droit à l'insoumission dans la guerre d'Algérie, qui a été publiée le 6 septembre 1960 dans le journal Vérité Liberté, avec des écrivains très célèbres comme Simone de Beauvoir, Marguerite Duras, Nathalie Sarraute, Jean-Paul Sartre ou Françoise Sagan, des cinéastes comme Alain Resnais, François Truffaut, des éditeurs comme Jérôme Lindon ou François Maspero, des acteurs comme Simone Signoret ou Laurent Terzieff, des historiens comme Pierre Vidal-Naquet ou Madeleine Ruberiou. Donc, un homme engagé. Je voudrais parler aussi de son humanité et de sa charisme pour terminer. Son humanité, c'est sa simplicité, sa modestie. Recevant la médaille d'or du CNRS, qui est la plus haute distinction qui existe en France pour un scientifique, Vernant remarquait « Ni mon œuvre propre, ni ma vie, ni ma personne ne peuvent être séparées de l'équipe. J'ai été continuellement porté par le travail et les recherches de tous ceux que moi aussi, peut-être, du même élan, j'entraînais. » Vernant, c'est un homme que moi j'ai connu, qui était un homme, un monument, si vous voulez, un professeur au Collège de France, un grand résistant, etc., et qui, immédiatement, se comportait avec vous sur un plan d'égalité, dans une relation qui est une relation d'immédiateté et de simplicité extraordinaire, dans laquelle on sentait d'emblée la fraternité, ce que les Grecs appellent la philia, le refus de l'autorité, le refus des maîtres, le refus des écoles. Peut-être ça a quelque chose à voir avec son enfance. C'est aussi quelqu'un d'une immense générosité, d'une très grande bienveillance, manifesté en particulier vis-à-vis des étrangers, des exilés. On pourrait prendre l'exemple de Stella Géorgoudi, que je vous ai montré tout à l'heure. Avant d'être directrice d'études à l'école pratique des hautes études, Stella Géorgoudi, ça a été une étudiante communiste qui a été emprisonnée au moment de la dictature des colonels, la dictature entre 1967 et 1974 en Grèce, et qui a été libérée probablement parce qu'elle attendait un enfant, qui s'est réfugiée en France, connaissait personne, complètement démunie. Elle a atterri chez Vernant, et Vernant l'a immédiatement accueillie, lui a donné du travail, l'a aidée et a complètement permis qu'elle s'établisse en France, permis sa carrière. Cette bienveillance, on l'a trouvée aussi dans le travail, dans la qualité d'écoute. C'était tout à fait extraordinaire. Dans un séminaire, quelqu'un parlait, faisait un exposé, Vernon écoutait, tout le monde parlait, et puis après, Vernon prenait la parole. Et il avait écouté avec tellement de bienveillance, tellement de générosité ce qui avait été dit, qu'il reprenait tout, et tout devenait extraordinairement plus intelligent. Et il disait, ce que tu as voulu montrer, c'est que... Et on voyait l'orateur qui était là, qui tout d'un coup comprenait qu'il avait voulu montrer ça, mais ça ne lui avait même pas effleuré l'esprit, si vous voulez. Quelqu'un a bien résumé ça, c'est l'écrivain Pierre Pachet. Voilà ce qu'il dit. Regard clair et droit, un corps puissant et solide, une voix chaleureuse mais sobre sans excès, il écoutait attentivement les autres dans les discussions. Puis, il intervenait pour résumer ce qu'il avait entendu. L'éclairer d'une mystérieuse clarté, un peu magique, irrésistible, dont il avait le talent et qu'il dispensait modestement, si bien qu'on se disait alors « Ah oui, c'est exactement cela ». La charis, on peut traduire ça par la grâce. Quelque chose presque de surnaturel, quelque chose qui émane de lui. Une présence extraordinaire. Vernon, dit François Hartog, tous ceux qui l'ont connu le savent, c'était une présence. Quand il était au milieu d'un groupe, qu'il s'agisse d'un colloque, d'un séminaire, d'une réunion politique, mais tout autant d'un dîner entre amis ou d'une partie de volley-ball sur la plage, il était là, ce qui ne signifie nullement qu'il cherchait à monopoliser l'attention ou le crachoir. Mais ce groupe, institutionnel ou occasionnel, comptait sur lui, ce qui ne signifie pas davantage qu'il s'en remettait à lui, car les valeurs de mise en commun et d'égalité ne disparaissaient pas. Simplement, il était présent, il ne pouvait ni ne voulait se dérober, c'était ainsi, et ce fut vrai jusqu'au bout. Et c'est vrai que dans un groupe, au petit déjeuner, une table de 10, une présence, véritablement une présence, comme s'il y avait un daimon à l'intérieur de ce type. C'était quelqu'un, quand il parlait, c'était extraordinaire. Moi, je l'ai entendu parler à un séminaire d'Ulysse. Il racontait les tribulations d'Ulysse. Mais les tribulations d'Ulysse, je connais ça par cœur, je les ai lues 1000 fois. Et tout d'un coup, mais c'est comme si j'avais été un petit garçon. C'était extraordinaire, absolument extraordinaire. On avait l'impression qu'on se levait de son siège. C'était vraiment Chrysostome, la voix d'or. Idan Laquet disait que c'était le plus grand orateur qu'il ait jamais vu. Un merveilleux conteur de mythes, et je vous invite à lire ce petit ouvrage, qui effectivement a été écrit pour son petit-fils Julien, dans lequel il raconte l'univers, les dieux, les hommes, mais d'une manière qui prend, qui enlève véritablement, qui ravit en quelque sorte. Un livre enchanteur, écrit pour tous, grands et petits. Pour avoir une bonne idée de Vernon, le mieux c'est de l'écouter, de le voir, car il y a beaucoup d'archives audiovisuelles, donc je pense qu'il y en a plein ici, peut-être d'écouter ses entretiens. Certains de ses entretiens ont été retranscrits, et lui-même a écrit 2 volumes de mémoires. Je vous ai amené ici le second, et dans ses mémoires, il écrit comme il parle, on entend la voix de Vernon. Beaucoup d'hommages lui ont été consacrés. Il y a juste un mois est sorti un livre aux belles lettres que je n'ai pas lu, qui s'appelle « Relire Vernon », qui est donc une mise au point par les savants actuels sur les apports de Vernon du point de vue du point de vue scientifique. On peut aussi voir les mélanges offerts à Jean-Pierre Vernon quand il est parti en retraite, donc qui proviennent d'horizons très différents. Et puis aussi ce bel hommage à Jean-Pierre Vernon et Pierre Vidal-Naquet, « L'histoire comme impératif » ou « La volonté » de comprendre. Merci.